Nous avons le plaisir, en parlant de gens que l'on connaît déjà, d'avoir avec nous Philippe Ducharme. Bonjour Philippe.
Bonjour François.
Ça va bien?
Ça va
oui,
bien toi?
Ça va bien, c'est super. Ben, on va parler aujourd'hui d'Alzheimer. On en parle souvent d'un mois à l'autre. Et là, encore une fois, on vient de peut-être trouver une piste.
Ah, ben encore quelque chose de fort intéressant. Donc, évidemment, je vais commencer par parler d'obésité, une maladie chronique qu'on sait qui est associée à d'autres troubles métaboliques, comme le diabète, hein, par exemple, ou l'hypertension. Puis il y a des recherches qui ont quand même montré dernièrement qu'il y a aussi des liens à faire avec les dommages cérébrovasculaires. Puis aussi, ben, une accumulation d'une protéine qu'on connaît bien au niveau de l'Alzheimer, la protéine bêta-amyloïde.
OK, oui. Dont on a déjà parlé.
Oui, exactement. Puis ça nous amène un peu sur la piste du fait que ben, ce qui est intéressant de la recherche dont je vous parle en ce moment, une recherche québécoise de Montréal, ben, les chercheurs, ces chercheurs-là ont été en mesure de démontrer pour la première fois qu'il y a une ressemblance au niveau de l'amincissement de certaines parties du cerveau entre des personnes obèses et des personnes qui sont atteintes de l'Alzheimer.
Ça, c'est les gens à l'Université McGill qui sont arrivés à cette conclusion-là. Ils ont observé le cerveau, si je peux dire, de toute une population de gens qui étaient atteints d'Alzheimer et, d'autre part, des gens qui vivaient avec un surpoids. Et donc, il y a une corrélation, ou il y a une similitude plutôt.
Exactement. C'est le mot juste à prendre. Puis, cette similitude-là ben, est au niveau de deux zones très précises au niveau du cerveau, le cortex temporoparietal. Donc, c'est une région qui est sur le côté, un petit peu au-dessus de l'oreille, là, dans cette région-là.
Et du côté droit, en plus.
Oui, côté droit.
Pas n'importe où, là.
Non.
Temporoparietal à droite.
Exactement. Il y a le côté gauche, mais on va parler du côté droit. Par ailleurs, il y a aussi en avant là, la zone du cortex préfrontal, donc la zone qui est située à l'avant, mais du côté gauche cette fois.
Oh, OK. Alors, il y a comme ces deux zones du cerveau qui, parfois, ont des atrophies de matière grise.
Exactement. Donc, un amincissement de ces deux zones-là. Ce qu'il faut quand même savoir au départ, ben, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux zones-là, disons qu'il s'atrophie, ben c'est déjà un signe connu de neurodégénérescence lié aussi avec l'Alzheimer. Fait que c'est, autrement dit, les chercheurs sont en mesure d'établir le constat que ben, l'obésité, ben, c'est ça, ça semble être en lien avec un type de neurodégénérescence qui est très similaire à celui qu'on observe chez les personnes Alzheimer. Mais aussi, ce qui est important de souligner, c'est que c'est une autre étude aussi qui confirme que l'obésité, c'est un facteur très important à considérer dans le développement de maladies neurodégénératives.
Il y a une plus grande proportion de la population en surpoids qui risque d'avoir l'Alzheimer que de personnes qui n'ont pas de surpoids.
Oui. En tout cas, ça peut du moins...
Enfin, je ne dis pas ça comme un fait, là.
C'est
une affirmation interrogative, oui.
Exactement. Puis peut-être qu'on a tout intérêt, du moins en ce moment, à se dire, ben, gardons une bonne alimentation, bien bouger, rester en bonne santé, ben, ça peut nous aider à diminuer les risques de développer des problèmes.
Parce que la chaîne de causation serait que quelqu'un qui développe un surpoids, je suppose, à un stade qui approche la morbidité, il y a comme une des causes de ce problème-là, en fait, ça provoque, je dirais, une des conséquences, ce serait de provoquer l'amincissement de certaines couches de matière grise et qui sont les mêmes couches qu'on retrouve dans la neurodégénérescence de personnes qui ont de l'Alzheimer.
Et voilà. Alors, ça peut augmenter les risques.
D'accord. À bien y penser. Parlons toujours cerveau, hein? Parlons cerveau. Parlons d'audition.
Ben parfait. Donc, je vous parle ici d'un trouble d'audition qu'on appelle la presbyacousie, ce qu'on peut traduire par une perte d'audition liée avec le vieillissement. C'est quelque chose qui touche quand même, j'étais surpris de voir ça, moi, 30% de la population mondiale peut être atteint au cours de sa vie de presbyacousie. Donc, ça se manifeste par, dans le fond, une diminution de capacité à bien entendre, mais dans un environnement bruyant. Donc, on distingue moins bien les sons, finalement. Puis, dans les causes qu'on sait, ça peut être lié aux osselets, les petits os au niveau de l'oreille moyenne, les petits os qui permettent de transmettre des vibrations par le tympan, si on veut. Mais aussi, ça peut être aussi par des neurones qui sont dans une structure qu'on appelle la cochlée. Donc, ça, c'est la structure interne de l'oreille qui ressemble à une coquille d'escargot.
Oui, c'est un peu comme enroulé sur elle-même.
Exactement. Donc, les neurones qui se trouvent là, meurent avec le vieillissement, puis ils ne seront pas remplacés ou renouvelés. Donc, c'est ce qu'on sait en gros comme cause probable de la presbyacousie. Puis au niveau des mécanismes un peu plus spécifiques, là, ça demande encore à être élucidé. C'est dans ce contexte-là que des chercheurs américains ont quand même fait une progression très intéressante au niveau de la compréhension du fonctionnement du cerveau dans un contexte où il y a une perte d'audition liée au vieillissement.
En fait, c'est à l'Université de Johns Hopkins, près de Baltimore. Oui. Ils ont pris des jeunes souris puis des vieilles souris.
Et voilà. Hein? Et voilà.
Pour représenter deux extrémités du spectre du vieillissement. Ils ont fait réagir les souris à des stimulations sonores. Puis ils sont aperçus que les souris plus âgées étaient moins à même de réagir à des sons qui devaient leur indiquer une récompense quand ces sons-là étaient créés à l'intérieur d'un milieu où il y avait d'autres bruits qui se mêlaient.
Exactement, c'est ça. Pour reprendre ce que tu dis exactement, les souris plus âgées ont eu de la difficulté à réagir, c'est-à-dire ils devaient s'abreuver au moment d'entendre un son, mais quand on met le son ambiant à travers un son spécifique, c'est là qu'elles ne semblent plus en mesure de distinguer la présence du son dans ce bruit ambiant-là. Donc, c'est un peu ce qu'on peut observer chez les vrais humains, autrement dit, en vieillissant. Mais pour aller un petit peu plus en profondeur, ils se sont intéressés à l'activité des neurones, de certains neurones dans le cortex auditif, donc la zone du cerveau qui traite l'information auditive. Ce qu'ils ont remarqué, c'est que chez les jeunes souris, là, quand ils sont en présence d'un son et du bruit ambiant, elles sont capables de... Il y a des neurones qui s'activent, mais il y a des neurones aussi qui s'éteignent, c'est-à-dire qu'elles sont réprimées dans leur activité, si on peut dire. Mais ce qui est très étonnant, ce que les chercheurs ont remarqué, c'est que quand on regarde au niveau des souris plus âgées, en présence du son et du bruit ambiant, c'est tous les neurones de cette zone-là qui sont activés. Oui, ils s'activent tous, finalement.
La capacité de mettre en sourdine les bruits inutiles, qui sont des parasites, semble disparaître. Puis là, le cerveau plus âgé réagit en masse à tous les bruits, qu'ils soient utiles ou qu'ils n'aient aucune valeur informationnelle.
C'est exact, c'est ça. Ils perdent leur capacité un peu à faire cette distinction-là, alors que les jeunes souris sont en mesure de le faire. Ils le font par le fait de réprimer certains neurones au profit de d'autres. Et pour conclure avec ça, dans un contexte où on sait que le cerveau, c'est un organe qui peut s'adapter à l'environnement, c'est-à-dire qu'il peut refaire des connexions entre les différents neurones, puis il peut même moduler l'activité même des neurones. Ça, c'est ce qu'on appelle la plasticité neuronale. Oui. Dans un contexte d'apprentissage notamment, les chercheurs, eux autres, ils se disent, on a peut-être ici quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire une façon de ralentir ou de réduire la perte d'audition liée au vieillissement. Ça, c'est en travaillant sur cette fameuse plasticité neuronale-là. Comment le faire? Ça, c'est une autre chose. Mais l'idée là-dedans, c'est de dire, peut-être qu'on peut essayer de réapprendre au cerveau plus âgé à se concentrer sur un bruit plutôt que
de tous les absorber. Un peu de la même façon que d'apprendre une langue étrangère ou de faire des sudoku, ça fait une gymnastique cérébrale, puis ça permet d'activer la plasticité, la capacité du cerveau à s'adapter et à trouver de nouvelles fonctions. Mais en parlant toujours, on est dans l'intelligence aujourd'hui, là. C'est le thème du jour, hein? Une jeune entreprise de Montréal, Neural Drive, N-E-U-R-A-L Drive, fait des pas intéressants en utilisant, entre autres, l'intelligence artificielle.
Exactement. Donc, rapidement, l'intelligence artificielle, on peut résumer ça comme une combinaison de plusieurs disciplines. Il y a des mathématiques, il y a de l'informatique, bien entendu. Il y a du génie électrique, il y a du génie mécanique, puis il y a toujours aussi, évidemment, les sciences cognitives qui sont impliquées là-dedans. Mais tout ça, ça permet des belles innovations. On en a dans notre quotidien. Là, pensons aux voitures à conduite autonome.
Voilà.
En est un exemple de l'intelligence artificielle, mais des exemples plus proches de nous aussi. Tout ce qui est reconnaissance faciale, des applications d'assistance vocale, ça aussi, ça fonctionne avec quelque part avec un peu d'intelligence artificielle. Mais si je reviens donc à mon sujet ici, c'est que c'est une jeune entreprise, comme tu le mentionnes, qui ont mis au point un dispositif de neuromodulation. C'est comme un petit truc,
d'accord,
qu'on implante au niveau du cerveau, dans le cortex moteur. Ça, c'est le but de ça, c'est de rétablir une connexion entre le cerveau puis des membres comme les jambes, les bras, mais dont la connexion a été interrompue.
Ça va arriver, par exemple, chez les gens qui ont eu des accidents, des blessures, oui, à la moelle épinière.
Exactement, c'est exactement ça, effectivement. Donc, c'est comme si on imaginait un peu la colonne vertébrale comme plusieurs câbles qui traversent, oui, cette structure-là, puis que là, on vient en sectionner quelques-uns. Quelques câbles sont coupés, voire tous les câbles, mais dans 70 % des cas, c'est des gens qui ont des lésions dites partielles. Donc, c'est pas, d'accord, des sections complètes, des coupures complètes. Donc, le dispositif, le but de ça, ben, c'est d'envoyer des signaux électriques, puis de toujours en ayant en tête l'idée de la plasticité neuronale. Oui.
C'est-à-dire Neural Drive, N-E-U-R-A-L, Drive. Ben, on va garder ça sur le radar, Philippe. Ça va certainement un sujet qui va revenir. Ben, merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. De l'autre côté de la pause, Isabella Federici et on parle d'AmiTélé.